Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Élise Leu. En matière de chômage, François Mitterrand, résigné, pensait avoir tout essayé au terme de son deuxième mandat. Quelques années plus tard, c'est un Lionel Jospin à peine plus combatif qui concédait « l'État ne peut pas tout » en réaction au licenciement chez Michelin. Eh bien, en jugé par les politiques menées depuis, il faut croire qu'il s'agissait de découragement passager, car s'il est un reproche qui ne peut pas être fait au gouvernement qui se sont succédés depuis une trentaine d'années, c'est bien celui de l'inaction. Le nombre de dispositifs censés permettre de lutter contre le chômage, il y en aurait une quarantaine aujourd'hui pour les seuls emplois aidés, ce nombre témoigne d'un volontarisme constant que le pouvoir soit à droite ou à gauche. Et il semblerait que, de temps en temps, cela marche. Ainsi, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi au mois d'octobre est-elle attribuée au dernier en date de ces contrats aidés, à savoir les emplois d'avenir? Mais que peuvent ces quelques dizaines de milliers de contrats face à un chômage qui n'en reste pas moins à des niveaux records? 3 275 000 personnes pour la seule catégorie A. Et que peuvent encore les politiques face au chômage? C'est notre sujet du jour. Bonsoir Dominique Méda.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris-Dauphine, membre du Centre d'études de l'emploi. Vous êtes engagé depuis quelques jours au sein du parti Nouvelle Donne. Depuis quelques jours, parce que ce parti n'a que quelques jours. Parti dirigé, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas par Pierre Larouturou. Et un parti qui a fait de l'emploi un de ses principaux axes. Vous avez publié au mois de septembre dernier, c'est donc encore tout chaud, La mystique de la croissance, comment s'en libérer, aux éditions Flammarion. Pour discuter avec vous, Bertrand Martineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vous avez été conseiller social à la présidence de la République de 2007 à 2008. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était à l'Élysée. Vous avez ensuite été jusqu'en 2012 délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Et vous avez publié « Chômage, inverser la courbe ». C'est un livre qui est en fait publié par l'Institut Montaigne aux éditions Manitoba, Les Belles Lettres. Puis notre troisième invité, c'est notre partenaire mensuel, Alternatives économiques et son rédacteur en chef, Guillaume Duval. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous doit, je vais aussi citer un de vos ouvrages, « Made in Germany, le modèle allemand de la démite », publié au Seuil. Je le cite parce que il n'est pas impossible que l'on parle de l'Allemagne ce soir. Quand on parle du chômage, en général, ça vient tout de suite après. Et il faut quand même évoquer la une du numéro du mois de novembre d'Alter Echo. Chômage, justement, impôts, croissance zéro. Et si tout n'était pas de sa faute, c'est celle de François Hollande. Finalement, vous répondez peut-être déjà en partie à la question qu'on pose ce soir, Guillaume Duval. La politique et les dirigeants politiques ne peuvent pas tout en matière de chômage.
Les dirigeants politiques ne peuvent pas tout à l'échelle nationale. Une partie de la réponse que nous apportons à cette question, c'est de dire que les politiques européennes sont vraiment très défavorables à l'emploi dans toute l'Europe et aujourd'hui très défavorables à l'économie française en particulier. On est cette année dans une situation tout à fait extraordinaire au niveau européen. Donc les pays du Sud en crise vont avoir des excédents extérieurs à leur tour. Ils vont avoir 36 milliards d'euros d'excédents. L'Allemagne a 200 milliards d'euros d'excédents extérieurs. Ce qui fait que l'ensemble de la zone euro va avoir 260 milliards d'euros d'excédent extérieur, soit 2,7% de son PIB. Ça veut dire que, avec des politiques plus intelligentes, la zone euro aurait pu, au lieu d'être en récession de 0,4 points, comme elle va l'être cette année, elle aurait pu croître de 2,3 points de PIB. Et au lieu de, sans que ça pose aucun problème de financement de nos économies, puisque nous avons dégagé suffisamment de richesses pour ça, et au lieu de perdre 1,2 million d'emplois cette année, elle aurait pu en gagner 1,2 million, notamment en gagner quelques-uns en France si on avait eu des politiques plus intelligentes. À côté de ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire et c'est très bien de faire les emplois aidés. Je pense que c'était une erreur de Nicolas Sarkozy d'avoir beaucoup limité le nombre de ses emplois malgré la crise durant sa période où il était au pouvoir. On reste encore très en dessous des niveaux qui étaient atteints en 2000. Il y avait 200 000 emplois aidés de plus à ce moment-là. C'est des outils qui restent utiles dans la période.
Alors essayons de voir justement direct tout de suite si ces emplois aidés ont un impact direct et facilement mesurable en termes de chiffres du chômage. Bertrand Martineau, donc, au mois d'octobre, alors baisse légère, certes, mais baisse tout de même du nombre de demandeurs d'emploi, en tout cas du nombre d'inscrits à Pôle emploi dans la catégorie A, 20 000 personnes en moins. Est-ce qu'on peut établir facilement un lien indirect entre cette baisse et la politique, en particulier la politique d'emploi aidé, les emplois d'avenir pour les jeunes, les contrats de génération pour les jeunes et les moins jeunes, sur ces résultats-là?
Oui, marginalement oui, même si les chiffres sur un mois sont très difficiles à interpréter, tout le monde le sait, il faut regarder sur plusieurs mois. Il est évident que les emplois d'avenir mordent un petit peu sur le chômage marginalement. Cela étant, l'impact des emplois aidés, tout confondu, n'est pas si spectaculaire que ça, parce que vous avez des pertes en ligne, vous avez des effets d'aubaine, c'est-à-dire des embauches qui auraient eu lieu de toute façon, vous avez une proportion non négligeable de jeunes qui n'étaient pas inscrits à Pôle emploi, donc cela, ça ne fait pas une diminution sur le chiffre de Pôle emploi. Et puis surtout, le gros problème des emplois aidés, il y a beaucoup de problèmes sur les emplois aidés, mais si on regarde le seul problème de l'impact, c'est que c'est une fuite en avant. C'est-à-dire le problème n'est pas de savoir combien vous faites de contrats aidés une année donnée, c'est d'en faire plus que l'année suivante. C'est-à-dire que ce qui impacte la progression du chômage, ce n'est pas le stock d'emplois aidés, c'est le fait qu'il faut en faire plus que l'année précédente. Donc c'est une sorte de fuite en avant. Cette année, on va en faire des emplois non marchands de sorte de 540 000, 530 000, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez impacter le chômage l'année prochaine, il va falloir en faire encore plus. Hein, donc c'est une fuite en avant qui évidemment budgétairement pose un problème. Puis par ailleurs, ces emplois sont absolument inefficaces, on le sait depuis très longtemps, pour réinsérer les personnes concernées sur le marché du travail. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir.
Par rapport à ce que vous venez de dire, peut-être d'abord de Dominique Méda.
Non, je suis d'accord sur le fait que les emplois aidés, c'est extrêmement important et qu'il vaut bien mieux ça, en effet, que laisser les gens tout à fait sans rien. C'est encore mieux quand ils sont accompagnés de formation et que du coup, ils peuvent jouer le rôle de tremplin vers d'autres emplois. Donc là, je crois qu'il n'y a vraiment pas de discussion.
Mais Bertrand Martineau parle d'effet d'aubaine, c'est-à-dire les entreprises auraient peut-être de toute manière embauché, même s'il n'y avait pas eu ces dispositifs. Donc ça complique en tout cas la mesure de l'impact de ces contrats.
Non mais c'est vrai qu'il y a depuis 20 ans, on connaît toutes les critiques que l'on peut faire aux contrats aidés. Quand ils sont dans le non-marchand, c'est pas bien parce que c'est vrai que les gens n'en sortent pas ou en sortent moins bien que quand c'est dans le secteur marchand. Il y a des effets de cannibalisme, il y a des effets d'écrémage, c'est-à-dire qu'on va toujours aller chercher quand même les gens qui sont le mieux formés, le mieux qualifiés. Donc il y a des tas d'effets négatifs, mais c'est quand même une excellente solution. Simplement, ce qu'on peut critiquer, c'est que c'est une solution, là encore, en attendant. Donc on attend toujours autre chose, et qu'est-ce qu'on
ça
attend?
Ça fait 30 ans qu'on attend.
On attend la croissance. Voilà. Donc pour moi, le sujet principal, c'est celui-là. C'est que c'est encore une solution d'attente, et je crois que maintenant, il est sans doute temps de rentrer dans le vif du sujet.
S'il y a autant d'emplois aidés aujourd'hui, et de dispositifs d'emploi aidés en France, Bertrand Martineau, est-ce que c'est peut-être d'abord parce que c'est un des rares moyens qu'ont prouvé les politiques de montrer qu'ils étaient volontaristes sur le domaine de l'emploi, sans que ça soit toujours très efficace?
Évidemment. C'est-à-dire qu'on a 50 000 études en France et puis surtout à l'étranger qui montrent que les trajectoires des personnes qui sont dans des emplois aidés non marchands ne sont pas améliorées. Dans le cas des jeunes, on a de fortes raisons de penser que les trajectoires sont même diminuées. Enfin, les opportunités d'emploi ultérieures sont plutôt diminuées, en tout cas ne s'améliorent pas par rapport aux mêmes jeunes qui ne passeraient pas par ces emplois. Bon. Donc c'est absolument inefficace, tout le monde le sait, et il faut arrêter de dire que les politiques de l'emploi ne sont pas évaluées. Elles sont évaluées, simplement on ne tient pas compte des évaluations. Alors maintenant...
En même temps, comment est-ce qu'on fait pour évaluer où il y a, des dizaines de dispositifs?
Il y a des
comment est-ce qu'on sait que c'est plutôt celui de 2013 qui fonctionne, davantage que celui de 2011 ou celui de 2012?
Non, ils n'ont jamais fonctionné, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, pour répondre à votre question qui est pourquoi est-ce que les politiques font beaucoup de contrats aidés, mais parce que, effectivement, c'est quelque chose qui est à leur main, qui ne demandent pas de concertation avec les partenaires sociaux, qui ne demandent pas de consultations différentes, variées. Donc, c'est directement à leur main. Ça permet de donner des chiffres en milliards d'euros, en nombre d'emplois créés directement. Et puis, c'est très gratifiant pour un élu local de dire à sa permanence le samedi matin, regardez, c'est grâce à moi que votre fils a eu un emploi quand même. Donc, c'est très difficile de résister à ce tropisme très français, d'ailleurs, des contrats aidés.
Donc, quand on pose la question, que peuvent encore les politiques face au chômage, Guillaume Duval, est-ce que le contrat aidé, c'est peut-être un des derniers outils qui est à la totale disposition, justement, du pouvoir politique?
C'est surtout un outil qui n'a pas, qui ne mérite absolument pas les critiques excessives qui viennent de lui être faites. C'est un outil qui reste très utile, pas tellement pour créer des emplois au global, mais en particulier pour aider des gens qui sont très éloignés de l'emploi à y revenir. C'est vrai que pour cela, ils doivent être accompagnés de dispositifs à la fois d'accompagnement et de formation qui sont solides et qui manquent parfois dans le passé. Mais simplement, en ce qui concerne ceux qui sont aujourd'hui décidés, en particulier les emplois d'avenir, c'est très bien qu'ils aient été très ciblés sur les publics réellement en difficulté parmi les jeunes, beaucoup plus ciblés que ne l'avaient été les emplois jeunes de Lionel Jospin dans les années, à la fin des années 90. C'est une des raisons pour lesquelles le dispositif a eu un peu de mal à monter en puissance, parce que c'est des publics qui étaient en difficulté qu'il s'agissait de porter vers l'emploi. Mais c'est très bien de faire ça, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut amener des gens qui sont très éloignés de l'emploi vers l'emploi, il n'y a pas d'autre solution que de dépenser beaucoup d'argent pour les former et pour les accompagner. Je sais que M. Martineau dira sans doute que si on mettait le SMIC à 0,50 €, ça marcherait peut-être, mais je n'y crois pas un instant. Il n'y a pas d'emploi peu qualifié dans nos sociétés. On a besoin de requalifier les gens pour les amener sur le marché du travail. Ça coûte cher, c'est compliqué, c'est beaucoup de risques d'échec, mais rien ne permet de tourner autour de ça. Il y a quand même un deuxième outil qui a été efficace dans le passé, et je pense qu'on y reviendra, parce que de toute façon, Dominique voudra y revenir aussi, c'est la réduction du temps de travail.
C'est ces deux sujets sur lesquels on va revenir, à la fois le SMIC avec Bertrand Martineau et la réduction du temps de travail avec Dominique Ménat. Mais comme on est encore un tout petit peu sur le diagnostic, donc est-ce qu'on peut dire, peut-être pour conclure déjà cette première séquence Dominique Ménat, que d'après vous, sans les contrats aidés, le chômage aurait encore davantage augmenté?
Bien sûr, ça c'est absolument évident. Le chômage aurait augmenté, des gens auraient été dans la grande misère, et donc c'est vraiment un instrument, là je rejoins tout à fait Guillaume Duval, hein, c'est un instrument qu'il faut garder, développer, améliorer, même s'il y en a d'autres. Je pensais, là, il y a par exemple des programmes de requalification, de formation, je pense à la Finlande, qui il y a quelques années avait pris 100 000 personnes et les avait complètement reformées. Ça c'est aussi des actions très intéressantes, mais beaucoup plus cher. Et du coup, on reboucle avec ce que disait Guillaume Duval tout à l'heure, c'est que c'est... on est quand même un peu ligoté, quoi. On est ligoté aujourd'hui parce qu'il y a peu d'argent public à mettre dans la chose, et qu'on est ligoté par les règles bruxelloises.
Alors essayons d'avancer un petit peu et allons sur le terrain du volontarisme politique, hein, qui se traduit par ces contrats aidés. C'est vrai que depuis une trentaine d'années, ça passe d'abord par là. Ce que vous dites dans votre livre, Bertrand Martineau, c'est difficile d'imputer la contre-performance française en matière d'emploi à l'inaction de nos gouvernements. De fait, leur énergie est apparemment inépuisable.
Oui, si je peux me permettre un mauvais jeu de mots, les gouvernements, depuis 30 ans, ne chôment pas. Hein, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas un semestre ou une année où on n'annonce pas un grand plan pour les jeunes, pour les seniors, pour les peu qualifiés, pour etc. Donc ça, on sait faire. Donc fabriquer des contrats aidés à la chaîne, à l'abattage, on sait faire aussi. La difficulté, Dominique Ménat le disait, comme une solution d'attente, pourquoi pas ? Dans un trou conjoncturel, de toute façon, Keynes a écrit des choses tout à fait intéressantes sur ce sujet. Hein, payer des gens à boucher des trous, à creuser des trous, à les remettre, ça peut participer au redémarrage de la machine en injectant du revenu et en aidant au retour à la confiance. Donc moi, j'ai rien contre en période de récession. Le problème, c'est qu'on n'est pas en situation d'attente. Ça fait 30 ans que le chômage est à 9% en moyenne dans ce pays. Ça fait 360 mois qu'on a un chômage qui est au-dessus de 2 millions de personnes. Donc si vous voulez, les solutions d'attente, je crois qu'on les a un peu usées, abusées, et je ne crois pas que ce soit le cas, qu'on puisse continuer dans cette direction, sachant par ailleurs que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit sur ce plan-là Guillaume Duval. Remettre des gens au travail qui ont eu des grosses difficultés sur le marché du travail, ça coûte cher, il faut y mettre de l'argent. Donc il faut effectivement les requalifier, les former, les coacher, tout ce que vous voudrez. Mais le problème, c'est que ces contrats parking sur lesquels on consacre 3 milliards d'euros, alors 3 milliards d'euros, c'est deux fois la subvention de l'État à Pôle emploi quand même, hein, pour fixer les idées pour les auditeurs. Eh bien, tout cet argent-là, c'est autant d'argent qui n'est pas mis ailleurs. C'est ça que je déplore.
Dominique Ménat.
Oui, j'ai envie de rebondir, mais vous nous demandez, est-ce qu'on peut y aller maintenant sur les vraies solutions, quoi. C'est-à-dire, il y a d'autres solutions, et notamment une des solutions, si jamais la croissance ne revenait pas.
C'est l'hypothèse sur laquelle vous partez. C'est-à-dire, aujourd'hui, en gros, il y a un quasi-consensus pour dire, pour créer davantage d'emplois, de toute manière, ce qui compte, quelles que soient les politiques qui sont menées, c'est le retour de la croissance. Et vous faites plutôt le pari inverse. En tout cas, vous vous dites, et si jamais la croissance ne revenait pas, est-ce qu'on pourrait quand même faire baisser le chômage.
C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on constate ? On constate quand même que tendanciellement, la croissance a diminué depuis les années 70, hein, depuis très longtemps en fait. Elle reviendra en effet peut-être pas, qu'en tout cas pour l'instant, elle n'est pas là. Que des économistes très classiques comme Robert Gordon aux États-Unis disent qu'on va avoir dans les années qui viennent 0,2% de croissance par an parce qu'on ne connaîtra pas d'innovation majeure comme celle qu'a été par exemple l'électricité. Et puis peut-être que tout simplement, il n'est pas souhaitable que la croissance revienne sous les formes ou avec le contenu selon les modalités qu'on a connues jusqu'à maintenant.
Vous dites, pas de retour de la croissance, ou en tout cas un retour extrêmement faible. On peut malgré tout faire baisser le chômage.
Quand les économistes nous disent qu'il faut 1,5% de croissance pour combattre le chômage, c'est toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire si on ne touche pas les autres paramètres. Il y a un paramètre essentiel, c'est la manière dont ce volume de travail est réparti sur l'ensemble de la population. Et je crois que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce volume de travail, il est très mal réparti sur l'ensemble de la population. C'est-à-dire il y a des personnes qui ont zéro. Il y a des personnes, et ça ne faut pas du tout l'oublier, qui ont des tout petits temps. Des 10 heures, des 5 heures, des toutes petites choses. Et puis, il y a des personnes qui sont à temps complet. C'est un partage que je crois qu'on peut qualifier de sauvage. Et il me semble qu'à la place de ce partage sauvage, on devrait mettre en place un partage maîtrisé, contrôlé, civilisé, qui passe, me semble-t-il, par une réduction de la norme de travail à temps plein.
Alors, avant de faire réagir Bertrand Martineau sur cette idée d'un nouveau partage du temps de travail, Guillaume Duval, est-ce qu'on peut aujourd'hui déconnecter l'idée de croissance et celle d'emploi? Est-ce qu'on peut créer des emplois sans forcément avoir de la croissance? Croissance, depuis deux ans, on a l'impression que c'est le passage absolument obligé.
C'est-à-dire que je pense que, évidemment, on n'aura pas, et il ne faut pas rêver d'une croissance à la chinoise ou à l'indienne. D'ailleurs, ce serait non seulement une catastrophe sur le plan environnemental, mais ce serait aussi une catastrophe parce que ça voudrait dire que les inégalités mondiales cessent de se réduire, alors que c'est une des seules bonnes nouvelles de la période récente qu'elles se soient beaucoup réduites. Mais en même temps, on n'est pas obligé de se tirer une balle dans le pied et d'avoir des politiques qui nous poussent à la récession inutilement, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait aujourd'hui avoir un petit peu plus de croissance, on pourrait éviter d'être en récession. Et ça aiderait bien sur le plan de l'emploi, ce qui n'empêche pas qu'il faille aussi réfléchir à d'autres solutions, parce que inverser la courbe du chômage, c'est gentil, à supposer même qu'on y arrive. Quand il y a 5,5 millions d'inscrits à Pôle emploi, on n'est pas prêt d'arriver en bas de la courbe. Et il faut faire d'autres choses. Parmi ces autres choses, oui, la question du temps de travail et du partage du temps de travail se pose. Elle se pose partout. Hein. Il ne faut pas croire que les autres n'ont pas fait de réduction de temps de travail parce qu'ils n'ont pas fait les 35 heures... qui aurait été un grand succès sur le plan de l'emploi entre 1997 et 2001. Les autres, ils ont fait une chose, c'est qu'ils ont développé le temps partiel féminin. L'Allemagne, dont on parle tant, c'est pour ses succès pour l'emploi, c'est assez simple. Chaque Allemand travaille moins que chaque Français. Chaque Allemand qui a un emploi produit moins de richesses que chaque Français qui a un emploi. Simplement, un homme allemand travaille une heure de plus qu'un homme français en moyenne. Une femme allemande travaille trois heures de moins qu'une femme française en moyenne. Donc, ils ont fait le choix de développer le temps partiel féminin et des temps très partiels, encore plus partiels qu'en France. C'est une manière de partage du travail. C'est une manière qui n'est pas acceptée socialement en France et j'en suis très heureux. Il faut trouver d'autres moyens, mais ils existent. Ils ont été utilisés dans le passé. Je crois qu'il faut qu'ils les utilisent aujourd'hui à nouveau, mais sous des formes renouvelées. Je crois qu'on est arrivé au bout avec les 35 heures de la logique de la réduction du temps de travail à l'échelle hebdomadaire. D'ailleurs, ça n'a pas été une réduction de temps de travail à l'échelle hebdomadaire le plus souvent, ça a été des jours de congés supplémentaires. Je pense qu'il faut l'aborder sous un autre angle, qui est celui, par exemple, d'une période plus longue. Sur 5 ans, si on dit vous avez droit à 6 mois de congés sabbatiques rémunérés, ou sur 10 ans, vous avez droit à 1 an de congés sabbatiques rémunérés, ça a le même effet sur le volume du travail, et ça répond à une demande sociale. Il y a plus beaucoup de gens qui veulent se former ou faire le tour du monde avant d'être complètement perclus de rhumatisme, avec un âge de la retraite qui recule tout le temps. Donc je crois que ça pourrait résoudre à la fois le problème de l'emploi et répondre à une vraie demande sociale si on mettait en place ce type de mesures.
Bon alors Bertrand Martineau, deux questions pour vous. Est-ce que la croissance est indispensable pour faire baisser le chômage? Et si cette croissance ne revient pas, est-ce que la piste d'une réduction du temps de travail vous paraît être une bonne piste, un bon levier politique? Puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est savoir quelles peuvent être les mesures qui sont prises par les dirigeants politiques, que ce soit au niveau national ou au niveau plus local d'ailleurs.
Sur le premier point, sur la croissance, je crois qu'il faut effectivement changer notre logiciel et apprendre à vivre assez durablement dans une croissance, dans un environnement de croissance faible. Alors Dominique Méda s'en réjouit, moi je le regrette plutôt parce que la croissance
non,
c'est pas,
enfin
la croissance c'est aussi moins de revenus, moins de pouvoir d'achat à distribuer. Mais en tout cas, il est évident qu'on pourrait sans doute faire mieux en termes de croissance si on n'avait pas les dérèglements macroéconomiques européens qu'a rappelé Guillaume Duval. C'est évident. Pour autant, le pire du pire, à mon avis, ce serait d'attendre que la croissance revienne et de rester un peu les bras croisés, comme on a fait quand même pas mal de fois depuis 30 ans, en disant bon, bah finalement, la croissance, ce serait bien le diable que la croissance ne revienne pas dans les mois qui viennent, dans quelques trimestres, puis les élections seront à ce moment-là et on aura bien baissé le chômage jusqu'à 9%. 9%, ça va, on a fait le job. Vous voyez ce que je veux dire si je caricature un peu.
Donc n'attendons pas que la croissance revienne et partageons tout de suite différemment le temps de travail.
Alors là, c'est autre chose. Donc premièrement, effectivement, il faut abaisser ce point mort au-delà duquel on crée de l'emploi, c'est absolument fondamental parce qu'on n'aura pas dans les 5 ou 10 ans à venir, vraisemblablement, on n'aura pas des taux de croissance de 3-4%. Et d'ailleurs, même si on les avait, on les a déjà eus à la fin des années 90, ça ne permet pas de réduire véritablement le chômage en deçà des 8% sur lequel on bute quand même depuis 30 ans. C'est-à-dire jamais le chômage passe en dessous de 8%, si ce n'est pendant quelques mois, en 2007.
Bon, alors, le
temps de travail, alors. Eh bien, écoutez, c'est une question qui doit rester ouverte. Autant un abaissement généralisé de la norme, qu'elle soit hebdomadaire ou annuelle, du temps de travail est évidemment une catastrophe absolue. Bon, on l'a déjà testé avec les 35 heures. Je pense qu'en termes de... pour plomber les finances publiques, la compétitivité et le pouvoir
absolument
d'achat,
pas.
Je pense
absolument
que on peut aussi passer aux 32 heures. Enfin, il faut raconter la vérité aux gens. Baisser le temps de travail de manière massive dans une économie, c'est diminuer le revenu par tête.
C'est les Grecs, c'est les Roumains, c'est les Turcs qui
donc, en revanche,
c'est pas les Suédois ni les Danois.
En revanche, il est évident que la réduction du temps de travail négociée, par exemple au niveau de l'entreprise, est une modalité particulière d'ajustement au choc économique. Ce qu'ont fait les Allemands, c'est une partie de l'explication de leur bonne performance sur le marché du travail et de leur capacité à absorber le choc énorme qu'ils ont subi en 2008-2009. Donc, la réduction négociée du temps de travail, bien entendu, la flexibilité du temps de travail, évidemment, dans un sens comme dans l'autre, autant pour augmenter que pour diminuer. Maintenant, évidemment, un abaissement généralisé de la norme. Enfin, là on entre dans la politique. C'est de l'économie vaudou, on va dire.
Ça veut dire qu'en termes de décision politique, sur cette question-là, Bertrand Martineau, et ensuite je vais donner la parole à Dominique Méda, mais vous plaidez plutôt pour une forme de quoi ? De décentralisation de la décision ?
Ah, complètement. C'est le temps de travail, c'est s'il y a un domaine où le sujet doit être décentralisé, il me semble, et remis aux relations sociales, au dialogue social, c'est bien le temps de travail. Ce qui suppose, c'est ce que j'explique pas mal dans mon ouvrage, c'est qu'évidemment les relations sociales soient organisées un peu différemment dans le pays qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Et Dominique Méda.
Bon, c'est difficile de reprendre tout ça. D'abord, juste pour dire que je ne me réjouis pas du tout de l'absence de croissance, je suis entièrement d'accord, tous nos dispositifs sociaux sont dépendants de la croissance, donc je ne m'en réjouis évidemment pas. Simplement, je pense qu'il y a un élément qui a manqué là dans notre débat jusqu'à maintenant, c'est la prise en compte de la contrainte écologique et du dérèglement climatique qu'on nous promet quand même si on ne bouge pas. Donc il me semble que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à bifurquer. Commencer à bifurquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer notre production, changer nos manières de produire, changer le contenu de la production, rendre notre production plus propre écologiquement et socialement. Et ça veut certainement dire, là je me réfère aux travaux importants à mon avis de Gadret, cette idée que si on change le contenu de notre production, il va sans doute falloir plus de travail. Et que ce plus de travail, on pourrait de surcroît essayer de le distribuer sur un plus grand nombre de personnes. Alors Bertrand Martineau parlait tout à l'heure d'abaisser le point mort. Abaisser le point mort, une autre manière de dire les choses dans le jargon de l'emploi, c'est-à-dire qu'on peut enrichir la croissance en emploi. Et enrichir la croissance en emploi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que Guillaume Duval a dit tout à l'heure. C'est faire des petits temps partiels et simplement, la question absolument centrale, c'est qui a les tout petits temps partiels ou les mini-jobs ou les midi-jobs comme en Allemagne, et qui a les temps complets ? Vous savez, en France, on aime bien comparer les durées du travail et donc très souvent, on se focalise uniquement sur les temps complets. Et on dit, oh, regardez comme les Français travaillent beaucoup moins que les autres. Mais si vous prenez en considération les temps complets plus les temps partiels, alors les Français travaillent plus que les Allemands, que les Néerlandais, et surtout on a que les Américains et que beaucoup d'autres. Donc faut absolument regarder. Je reviens sur cette affaire. On parle pas de baisse généralisée du temps de travail. On dit regardons comment s'opère, comment exercer aujourd'hui le partage du travail. Et j'ai énormément apprécié que ce soit un homme hein, qui amène cette question sur la table. Le plus souvent, c'est les petits temps partiels, pourris, sous-payés pour les femmes et les bons temps complets pour les hommes.
Vous allez donc, même plus loin dans votre livre, Dominique Méda, vous dites qu'on peut même envisager de produire la même quantité avec davantage d'heures de travail, ce qui reviendrait à accepter le ralentissement des gains de productivité. Vous dites, mais sauf que ça, c'est considéré comme une hérésie aujourd'hui dans le domaine économique.
Oui, là encore, je me réfère aux travaux de Gadret, hein, l'idée de faire une production différentes, plus propres. Si vous faites, c'est toujours son exemple, un kilo de fraises sans pesticides, faites à côté de chez vous, dans de bonnes conditions sociales, ça sera évidemment plus, ça demandera plus de travail que des fraises pleines de pesticides qui en plus pollueront. Donc, je crois qu'il faut qu'on tienne ensemble la question économique et sociale, et bien sûr de l'emploi, et la contrainte écologique. On ne peut pas ignorer la contrainte écologique, sinon elle va nous revenir sur la tête un de ces jours. Et en plus, je termine juste là-dessus, il me semble qu'on a une opportunité fantastique si on peut mettre la résolution de la crise écologique au service de la résolution de la crise de l'emploi.
Guillaume Duval.
Oui, c'est ce que j'allais dire à Dominique, c'est que le problème, c'est que quand on est en récession, comme on le constate aujourd'hui avec l'histoire de l'éco-taxe en Bretagne, le problème, c'est que quand on est en récession, on n'arrive pas à faire la conversion écologique de l'économie parce que c'est le moment où l'État finance l'automobile parce que c'est là qu'il y a des emplois, il ne faut pas que les gens tombent au chômage. C'est là que l'État arrête d'aider le développement des énergies renouvelables, arrête d'aider l'efficacité énergétique, etc., etc. Donc le fait d'être en récession est défavorable à la conversion écologique de nos économies. Or, celle-ci est indispensable. Elle est indispensable pas pour nos arrière-petits-enfants, pour leur laisser un petit quelque chose, ça c'est déjà important. Elle n'est pas pour les gens du Sud, leur laisser un petit quelque chose pour se développer aussi. C'est l'Europe est la zone la plus anciennement industrialisée au monde parce qu'elle est la zone la plus anciennement industrialisée au monde. C'est celle qui a le moins de matières premières sur son territoire et le moins d'énergie fossile sur son territoire.
Sauf qu'aujourd'hui, les questions d'emploi, les questions d'écologie paraissent totalement déconnectées. En tout cas, en grande partie déconnectées.
Je crois que c'est une grave erreur. Si on n'est pas capable, malgré nos difficultés budgétaires, de accélérer maintenant la conversion écologique de nos économies, notre croissance, notre économie ne sortira jamais de la crise, parce qu'à chaque fois que l'économie mondiale repartira, on se fera pomper par les producteurs de matières premières, par les producteurs d'énergie fossile. Donc c'est un impératif absolu, mais c'est un impératif absolu qui, d'une part, nécessite un peu de croissance au départ, et qui, d'autre part, est lui-même générateur d'activités économiques, comme le soulignait Dominique Méda. C'est de l'investissement en plus, c'est de l'emploi en plus. C'est là-dessus qu'on peut miser beaucoup aussi, en termes de contenu de l'activité, pour relancer l'activité et l'emploi, mais ça n'exclut pas de jouer aussi sur d'autres leviers, comme le temps de travail.
Et on boucle sur la question européenne, c'est-à-dire qu'en effet, pour faire ça, il faut des investissements massifs, et pour ça, il faut une autre Europe.
Voilà, il faut davantage sans doute de coopération que ce qui existe jusqu'à présent. Alors, dans les propositions que vous faites, Bertrand Martineau, vous ne plaidez peut-être pas pour un changement de société aussi important que ce dont parlaient Dominique Méda et Guillaume Duval, mais vous avancez quand même un certain nombre de mesures dont vous dites qu'elles pourraient véritablement contribuer, si là aussi les décisions politiques étaient prises, à faire baisser le chômage. J'en ai retenu deux parmi l'ensemble de vos propositions. L'assouplissement du SMIC, et là on revoit apparaître le SMIC jeune qui avait fait descendre toute une génération dans la rue, c'était au temps d'Edouard Balladur.
Il y a 20 ans, on va fêter les 20 ans
Premier
du
ministre. Et puis la modulation des cotisations employeurs d'assurance chômage, c'est-à-dire finalement sanctionner les employeurs qui ont un peu trop recours à la multiplication des contrats courts, et en tout cas valoriser, en leur permettant des abaissements de charges, ceux qui favorisent les contrats longs.
Oui, alors ça fait partie effectivement de ces deux mesures-là font partie d'un ensemble très important. Ce que je veux dire simplement, peut-être qu'une des différences essentielles que j'ai avec Dominique Méda et peut-être dans une moindre mesure, je ne sais pas, avec Guillaume Duval, c'est que bien sûr, je ne remets pas en cause le changement de modèle de production. Ce que je dis, c'est que je pense que les pays qui vont réussir leur changement de modèle de production dans les années qui viennent, c'est plutôt des économies compétitives, c'est plutôt des économies qui créent des emplois, c'est plutôt des économies qui ont une sphère publique efficace. Voilà, c'est le pari que je fais. C'est certainement pas les pays qui croulent sous l'endettement, qui ont un marché du travail qui fonctionne pas, des réglementations dans tous les sens et un État obèse. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Bon.
Donc, alors, si on veut changer de modèle de production, il faut d'abord commencer par assouplir le SMIC.
Oui, peut-être bien en fait. Alors, simplement, la grande différence que nous avons, c'est que pour moi, qui me concentre mon État, je ne suis que spécialiste de ces sujets-là, je me concentre plutôt sur le chômage. Et mon idée, c'est que les solutions passent quand même beaucoup par le fonctionnement du marché du travail, les institutions du marché du travail. Alors, je sais bien que c'est un peu réducteur. Je ne prétends pas. Je sais qu'il y a de gros problèmes. Le marché du logement en France est une catastrophe et un impact sur le chômage. Je sais que la fiscalité en général, il y aurait effectivement beaucoup à dire. Mais si vous voulez, je ne peux pas prendre le problème absolument par tous les bouts. Donc, je privilégie un angle d'attaque qui est réducteur, mais qui est quand même pas du tout négligeable, qui est le fonctionnement du marché du travail. Et c'est là que j'arrive à un certain nombre d'analyses et de préconisations. Alors, vous avez bien voulu parler du SMIC jeune, qui effectivement me classe, alors évidemment, tout immédiatement dans la catégorie des affreux ultralibéraux, évidemment, que j'assume, j'assume simplement, si vous voulez, le problème du SMIC jeune mérite plus, à mon avis, qu'un débat caricatural. Parce que...
Un SMIC jeune, en gros, ça serait un SMIC moins bien rémunéré
comme font à peu près tous les pays.
Parce que vous dites, en fait, voilà, les jeunes, ils ont moins d'expérience, donc il n'y a pas de raison de leur donner le même salaire que les plus anciens.
Si on veut essayer d'être un peu, d'aller au-delà un petit peu des anathèmes sur ces sujets, j'ai l'habitude. Il faut réfléchir à ces sujets calmement. Pourquoi est-ce que la totalité des pays qui ont un salaire minimum, la quasi-totalité, a introduit un SMIC dérogatoire pour les jeunes? Pour la raison que vous indiquez, c'est qu'un jeune, alors les jeunes absolument non qualifiés, effectivement, ont un problème de coût du travail dans la plupart des pays. Alors en France, c'est particulièrement vrai parce que le coût du travail au niveau du SMIC en France est évidemment le plus élevé d'Europe. Il est de 6,15 € au Royaume-Uni pour un jeune de 20 ans. Il est de 10,9 en France, par exemple, pour des métiers qui sont rigoureusement équivalents. Je prends le Royaume-Uni. Alors évidemment, Royaume-Uni, des horribles libéraux, Pays-Bas, évidemment. Sauf que voulez-vous c'est pareil pour les Pays-Bas, non. Effectivement. Le Pays-Bas, savez-vous combien de personnes sont payées au SMIC aux Pays-Bas? 3%. En France, c'est 11%. Donc vous avez quand même... Ça veut dire qu'en France, vous avez 11% de la population active dans le secteur privé, dont le salaire est fixé administrativement. C'est quand même un petit sujet, quand même. Bon, alors, on a un problème général de coût du travail au niveau du SMIC. Et on a, il faut le dire, je veux dire, c'est comme ça. Bon. Et on a un problème particulier pour les jeunes. Alors, les jeunes en France, si vous voulez, alors on peut dire, c'est horrible parce qu'effectivement, on vit très mal avec un SMIC net temps plein aujourd'hui. Alors, le mettre à 70-80%, c'est pas bien du tout.
Et ça créerait de l'emploi ?
Oui, si vous croyez qu'il y a un lien entre le coût du travail et l'emploi, ça crée forcément de l'emploi. Et ça permettrait de ramener des jeunes non qualifiés, de les insérer sur le marché du travail, entre parenthèses, beaucoup plus durablement évidemment que ces contrats aidés qui mènent à rien. Alors simplement, pour terminer le raisonnement, bien entendu, il ne m'a pas échappé que le SMIC n'est pas qu'un salaire, c'est aussi un revenu. Ça ne m'a pas échappé, je ne suis pas idiot à ce point-là. Simplement, la situation, le sort qui est fait en France aujourd'hui, il est le suivant, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'on les empêche de travailler parce qu'on a un SMIC, un coût du travail au niveau du SMIC qui les empêche de travailler, qui est une barrière à l'entrée. Donc, ils ne travaillent pas et ils sont précipités dans la pauvreté parce que, par ailleurs, ce sont les grands oubliés du système de protection sociale français. Hein, c'est-à-dire que c'est la double peine. Alors, il y a une réponse, disons, j'assume, qui est un peu libérale, qui est de réfléchir à la question du coût du travail pour ces jeunes. Et puis, il y a une solution, on va dire, de gauche, qui est de les laisser dans l'assistance. Mais alors, dans ce cas-là, il faut y mettre les moyens et il faut que le RSA soit donné largue à manu pour les jeunes.
Bon, cela dit, Guillaume Duval, un SMIC jeune, ça serait peut-être pas plus mal que la multiplication des stages auxquels sont soumis aujourd'hui les jeunes qui ont extrêmement de mal à rentrer sur le marché de l'emploi.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est que la situation d'aujourd'hui est manifestement très insatisfaisante pour l'entrée des jeunes sur le marché du travail en France. Je crois que c'est pas simplement une question de, c'est pas une question de, simplement de coût du travail. Hein. Il y a dans la plupart des autres systèmes scolaires, les jeunes travaillent parallèlement à leurs études et les systèmes scolaires sont adaptés à ça. Hein. Donc quand on a des systèmes scolaires avec des temps de scolaire aussi importants qu'en IUT, en BTS ou en prépa en France, on interdit aux jeunes de travailler parallèlement et on ne les prépare pas à s'insérer sur le marché du travail, c'est très important. Mais ceci dit, je crois qu'il faut faire quelque chose de ce point de vue-là. Et c'est vrai que la multiplication des stages n'est pas une bonne solution, le rallongement des stages, etc., etc., n'est pas une bonne solution. Mais ce que je conteste surtout, c'est l'idée que ça permettrait de régler le problème des chômeurs jeunes peu qualifiés parce qu'ils sont sortis de l'école sans diplôme. Ça, c'est une illusion complète. Ça permettrait peut-être de mieux régler le statut des jeunes qui ont des diplômes diplômes et qui galèrent quand même, bien qu'ils aient des diplômes. Mais pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire sans rien, parce qu'on en laisse sortir comme ça des centaines de milliers chaque année en France, il n'y a pas d'autre solution pour les ramener sur le marché du travail que de les requalifier et de dépenser de l'argent pour ça. Si on pense qu'à 4 euros de l'heure, ils trouveront un boulot, on se met le doigt dans l'œil et on exerce une pression sur l'ensemble des salaires de l'ensemble des jeunes si on autorise ça. Hein, ça n'aboutira pas à ça, il n'y a pas d'autre solution que de les requalifier ces jeunes-là.
Alors on a examiné un certain nombre de solutions, évidemment on ne peut pas parler de toutes, et puis il suffit de réécouter un certain nombre des émissions que nous avons consacrées à ces questions de l'emploi pour peut-être avoir un panel un peu plus large, mais je voudrais revenir pour terminer l'émission sur la question du pouvoir que peuvent avoir les politiques aujourd'hui sur ces questions d'emploi. Dominique Méda, donc vous vous êtes engagé dans un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, qui met l'emploi au cœur de ses préoccupations. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est avant tout aux politiques, à ceux qui nous gouvernent, d'agir sur ces questions? Ou bien est-ce qu'on peut aussi imaginer une forme de décentralisation de la décision où il y aurait le monde associatif, pourquoi pas, les partenaires sociaux, ne les oublions pas, qui peuvent aussi avoir leur mot à dire et avoir des capacités d'action dans ce domaine?
Je pense que l'État a une responsabilité essentielle et les hommes politiques ont une responsabilité essentielle. C'est eux qui font l'agenda, donc qui mettent sur l'agenda ce qu'on peut faire dans les années qui viennent. Et moi, si j'ai rejoint ce mouvement, c'est parce que précisément, il met au cœur de son programme d'abord une forme de volontarisme très, très fort et ensuite qu'il tient ensemble ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette question de la contrainte écologique, de la nécessaire reconversion de nos économies et la question de l'emploi. Et ça me paraît extrêmement important. Et il aboutit à un constat que l'on a fait ce soir, hein, qui est que fait Alter Native Économique dans son numéro de ce mois-ci, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même sérieusement lié en ce moment, notamment par les traités européens, et qu'il faut très certainement, si l'on veut faire ce grand programme d'investissement qui nous permettra de nous engager dans la reconversion écologique, il nous faut une autre Europe, c'est-à-dire il nous faut un traité social, il nous faut une Europe plus démocratique, il nous faut sans doute un changement de la BCE, bref, beaucoup, beaucoup de réformes et ce parti met cela au cœur aussi de son action et ça m'importe énormément.
La France ne peut pas agir seule, mais la France peut quand même agir à condition, Bertrand Martineau, alors là tout à l'heure je parlais de la décentralisation de la décision sur le temps de travail, condition peut-être de recentraliser un certain nombre de décisions, c'est ce que vous dites dans votre livre. C'est tellement éclaté aujourd'hui entre les différents acteurs, missions locales, conseils régionaux, Pôle emploi, que c'est compliqué de donner une ligne directrice en matière d'emploi.
Non, mais en matière de politique de l'emploi et de formation professionnelle, c'est très simple, on est dans un capharnaüm. Donc la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre la décentralisation, c'est juste que la décentralisation à la française, c'est-à-dire telle qu'elle a été faite en France depuis 30 ans, ne marche pas, elle est coûteuse, elle est génératrice de doublons, et sur un territoire donné, vous avez automatiquement, sur n'importe quel public, au moins 4-5 intervenants, décideurs, responsables, financeurs. Quand vous avez 4 responsables ou 5 responsables, c'est que vous n'avez aucun responsable. Quand vous avez 4 ou 5 financeurs, ça veut dire que vous avez des inefficacités financières à tous les étages. Donc, il faut évidemment qu'on refasse le mécano administratif français, qui a aujourd'hui 6 couches. Hein, je sais de quoi je parle. Sur les politiques de l'emploi, sur un territoire donné, vous avez potentiellement 6 autorités, 6 couches administratives qui interviennent, de la mairie, de la commune, jusqu'à l'Union européenne. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner comme ça encore très longtemps. Pour le reste, le pouvoir politique a au niveau national a pour mission, à mon avis, de fixer le cap. Il doit le faire, y compris pour les négociations sociales. Deuxièmement, il doit donner le cadre fiscal, le bon cadre fiscal, le bon cadre réglementaire. Il doit donner l'environnement favorable pour que les forces économiques se développent. Maintenant, il ne peut pas tout faire. Le chômage, c'est l'affaire également des partenaires sociaux. C'est l'affaire des employeurs, c'est l'affaire des fonctionnaires, c'est l'affaire du simple citoyen. Il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience avec de la lucidité, du courage et de la constance dans la décision.
Eh bien, merci beaucoup Bertrand Martineau, Dominique Méda et Guillaume Duval d'avoir participé à cette discussion. Guillaume Duval, Alternatives économiques. Et si tout n'était pas de la faute de François Hollande en matière de chômage, d'impôts, de croissance zéro, Dominique Méda, la mystique de la croissance, comment s'en libérer, aux éditions Flammarion. Orléans. Bertrand Martineau, Chômage a inversé la courbe, aux éditions Manitoba, Les Belles Lettres, et c'est publié par l'Institut Montaigne. Vos commentaires sur notre site franceculture.fr, la page de Grand Moudre, la réécoute pendant 1000 jours, les podcasts pendant un an. Bah demain, tiens, on verra si nous avons peut-être de nouveaux gisements d'emploi à venir avec les imprimantes 3D. Vont-elles nous faire entrer dans une nouvelle dimension industrielle? C'est la question que nous poserons à nos invités. Et tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.